Bonsoir, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Cyrard.
Bonsoir, mais c'est pas si rare, c'est Méduse une fois.
C'est manqué, ça se voit.
Ah bon,
bonsoir. Bonsoir JCC.
Bonsoir tout le monde.
Donc JCC qui est rédacteur à Xboxygène et Cyrard qui est notre dieu et notre maître à tous. En tout cas notre maître à penser.
Absolument.
Voilà, et nous allons donc nous retrouver pour un nouveau Dojo Bar où on va refaire le monde autour d'une binouze sur un sujet qui est très d'actualité d'ailleurs, qui est New Super Luigi U. Et on fera une seconde partie, l'open bar, qui va être autour du damage control de Microsoft concernant la Xbox One. Parce que là, ça a été le gros bordel pendant deux semaines après toutes les annonces qui ont été faites. Et c'est en train un tout petit peu de... Enfin, Microsoft a fait une volte-face complète et on va donc en parler. C'est pour ça que JCC est là.
Exactement.
Et on va commencer tout de suite par un tour de table de l'actu. Donc, alors, Cyrard, t'avais un truc qui te brûlait les lèvres depuis au moins un mois, qui me dit j'ai un super truc, donc je te propose de commencer.
Oui, alors je vais pas commencer par ça. Je voudrais être un super.
Alors, attends, Cyrard, juste toute petite chose, il faut que tu baisses un tout petit peu le volume de ton micro parce que là ça sature énormément, je suis désolé.
Ah, non.
Mais voilà, ça devrait aller mieux, vas-y.
J'ai absolument rien changé.
D'accord, donc tu as dû avoir un tout petit problème temporaire. Voilà, désolé.
J'ai peut-être parlé un peu fort.
Voilà.
Par l'engouement de mon sujet.
Un peu trop enthousiaste.
Voilà. Donc je change de sujet parce que Méduse n'étant pas là, je me suis dit qu'il fallait quand même lui rendre un peu hommage. Et donc pour faire un gros big up, Méduse, t'es trop batte, il paraît que je dis ça, hein, mortel.
Je suis désolé, donc, mais bande de petits sacripants, moi j'aime bien.
Voilà. Donc je voudrais parler d'un petit jeu qui est sur téléphone mobile, à la fois sur iPhone et sur téléphone Android, et ça s'appelle 100 Toilets. Alors je sais que Méduse et toi-même, Mortal, vous êtes assez fan de ce genre d'environnement. Donc j'ai téléchargé ça il y a quelques semaines, et donc je vais vous parler un peu du but du jeu. En fait, on est coincé dans des toilettes, et le but du jeu, c'est d'en sortir.
Ça a l'air énorme.
Alors c'est pas n'importe quelle toilette, déjà, c'est des toilettes japonaises avec des petits jets et tout. Et donc 100, ça veut dire qu'il y en a une centaine. Pour le moment, il n'y a que 50 niveaux, et donc ils en rajoutent une dizaine de temps en temps. Et donc il y a des petites énigmes un peu nulles d'ailleurs, faut bien le dire. Typiquement tirer la chasse, soulever la lunette des chiottes parce qu'il y a le mot de passe derrière, ou tirer sur le PQ et il y a le mot de passe qui s'affiche, puis c'est de plus en plus difficile.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de PQ à tirer, ou c'est... Je ne comprends pas.
Non, typiquement, il y a un niveau, moi je ne veux pas trop spoiler, d'autant que je ne me souviens plus du prix, et puis ça ne s'affiche pas vu que je l'ai déjà installé, mais je crois bien que c'est gratuit, donc je vous invite à quand même l'installer. Typiquement, il y a des énigmes qui tombent par... qui sont accrochés à des ficelles, donc tu coupes les ficelles et puis finalement il n'y a que trois chiffres qui tombent pas, donc bah, c'est le mot de passe à afficher sur la porte, donc ça le déloque et puis tu peux sortir. Ça déverrouille, pardon, pour Méduse qui est attachée à notre langue.
Et donc, enfin, qui est peut-être attachée à la tienne mais pas à la mienne, hein, globalement.
Tu
ne relèves
ça.
Ah, le chat éternue, voilà, désolé.
Ah bon. Donc c'est d'émotion, et lui aussi veut jouer à 100 Toilets. Donc pour le moment, une cinquantaine de niveaux, j'ai pas tout fait encore, hein. J'en suis au 30e niveau, mais je vous conseille chaudement, avec un excellent rapport qualité-prix, puisqu'il coûte 0.
Oui, c'est forcément, c'est, ça, ça aide toujours un petit peu. C'est bon ?
C'est bon.
D'accord, je sais pas si t'avais fini.
Méduse, c'était pour toi.
Voilà, Méduse, c'est un hommage, ça c'est pour toi, Méduse. Il va débarquer dans 2 minutes avec sa voix cassée, ça va être très très drôle, je pense.
Alors j'ai un autre truc pour Méduse, alors oui. Déjà c'est ça.
Vas-y.
Une petite canette. Et alors je me suis acheté des Doritos quand même. Voilà.
Ceci est une émission hommage à Méduse. Méduse,
c'est l'heure de la
big up.
Alors
c'est l'heure de l'apéro. Carrément l'heure de l'apéro.
On n'est pas à montage. Hein.
Voilà, on a à peine commencé cette émission par des gens en sucette. Je rappelle qu'on est en direct, hein, les enfants. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. En tout cas, j'espère que ça marche.
C'est pour rendre hommage à Méduse qui nous manque.
Voilà. Bon, donc au moins, on a mangé des Doritos, on a ouvert des canettes, on a parlé de toilettes. Je pense que ça y est, Méduse est bien servi. En tout cas, j'espère. JCC, je me rappelle plus si tu avais un sujet d'actu.
Alors non, parce que je reviens de congé, j'ai pas trop suivi l'actualité ces dernières semaines, mais par contre je voulais éventuellement poser quelques mots sur ma dernière expérience, qui est de participer à l'E3 pour la première fois.
Alors moi ça me ferait très plaisir, effectivement, voilà. tu glisses 2-3 mots là-dessus, y a pas de souci.
Absolument.
Donc pour Xboxygène, c'était la première fois que nous allions à l'E3 en tant que presse jeux vidéo. Donc on est allé cette année avec les annonces next-gen, donc avec un potentiel énorme pour un gros salon. Donc on n'a pas été déçus dans l'ensemble avec les premiers jeux Xbox One ou PS4, voire même certains jeux Wii U, même s'ils sont pas next-gen. Voilà, donc c'est toujours impressionnant de poser ses pieds au Convention Center avec tout l'armada des stands, avec tous les entre guillemets les paillettes que l'on peut voir habituellement en photo ou en vidéo.
Et les boobs.
Un peu moins.
Il paraît
qu'il y avait restrictions budgétaires.
Ah oui, donc c'était des bons essais au lieu d'être des bonnes aidées.
Non, mais il paraît que cette année, il y a eu quelques contentieux. Ils ont décidé de limiter les bebs sur les stands. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas des masses, tout comme les cosplays. C'était assez limité. Néanmoins, on a pu en trouver quelques-unes et partager quelques photos, bien sûr. Voilà, au plaisir de certains lecteurs. Voilà, et sinon, bon, on a pris plein les yeux au niveau des jeux. On a pu poser les mains sur une nouvelle console, tester les manettes par exemple.
Ça doit faire plaisir ce genre de truc là. Enfin, je sais, tu poses tes mains sur une manette, je sais pas, 6 mois avant tout le monde, c'est quand même un truc.
C'est un sacré privilège en effet, ouais. Donc, et ça nous permet d'avoir un premier avis, une première impression sur le potentiel des consoles, d'avoir. Une satisfaction du rendu next-gen pour une première vague de jeux, en tout cas. Comme quoi, il y a quand même un gap technique. Même si, pour les premiers jeux, les premières générations de jeux sur une nouvelle génération, c'est toujours limité, mais ça promet de belles choses pour l'avenir. Puis on a pu voir un aperçu avec The Division d'Ubisoft, qui devrait sortir dans un peu plus d'un an. Mais déjà que les premiers jeux, même Assassin's Creed 4, au niveau next-gen, qui est beaucoup plus beau qu'une version current-gen. Puis on a vu le reste, Destiny, même FIFA, qui est en version next-gen, qui est bien plus beau que la version actuelle. Et puis plein d'autres jeux que l'on a vu en Behind Closed Door, comme Mad Max aussi. C'est toujours intéressant de voir des nouvelles licences.
Enfin, nouvelle, c'est l'adaptation d'un film des années 80.
Alors, nouvelle licence de jeu, mais pas au niveau historique, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Dying Light aussi, un jeu de survival avec un gameplay à Mirror's Edge, qui était très joli aussi, et intéressant au niveau ambiance, avec un cycle jour-nuit où la nuit, les zombies sont un peu plus hargneux que le jour. Donc ça promet de belles choses aussi. Puis tout plein d'autres jeux divers et variés avec les blockbusters habituels.
D'accord, donc en fait en résumé tu t'es quand même. Enfin, t'en as quand même bien profité. Pendant voilà. Une bonne semaine.
Bien profité. Ça passe vite. C'est en fait le salon est ouvert pendant 2 jours et demi.
Ah oui, je pensais que c'était plus long que ça, en fait. On se rend même pas compte. Ouais. On se rend difficilement compte, en fait, d'ici, parce qu'on a le décalage horaire et...
Ouais. Alors, le lundi, la journée des conférences, c'est une journée, bah, ça débute le matin avec Microsoft et ça termine le soir avec Sony. Bah, on sort pas de la journée, voilà.
Donc, ça sent la sueur un petit peu vers 18h.
Un petit peu, en plus, il fait chaud là-bas. donc, grosse journée, la journée des conférences. Et ensuite, ça reprend, le salon ouvre le lendemain, mais à midi.
Ah oui, d'accord, donc t'as quand même une matinée de, pause.
Voilà, ouais. Et mais du coup, après, les rendez-vous s'enchaînent et ça va très vite jusqu'au jeudi soir. Et c'est un rythme assez effréné.
D'accord. Mais écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous ce moment-là. C'est vrai que c'est quand même pas souvent qu'on a des gens qui vont à Los Angeles. C'est assez intéressant d'avoir ce ressenti un petit peu... ce ressenti salon, tout ce que t'as pu essayer, du rythme que ça prend. Puis effectivement, le Convention Center, ça doit être quand même assez impressionnant, surtout que nous, on le voit toujours sur un tout petit écran, dans une toute petite fenêtre.
Bah, c'est ça, oui. Ce qu'on a l'habitude de voir en photo ou vidéo, là, on y est...
Là, on y est en vrai, c'est donc voilà. Un petit peu autre chose.
Ah, JCC, est-ce que tu as vu le fameux stand Ouya?
Oui.
C'était... Ah.
Ouais.
Alors c'était la gueule ou pas?
Alors c'était le stand qui était en dehors du Convention Center, en fait.
C'est
c'était
ça.
Sur le bloc d'en face. Et donc effectivement c'était la teuf là-dedans. Voilà. On y est passé le jeudi soir, donc à la fin du salon. Et ils proposaient bière à gogo, DJ avec la musique.
Mais c'est là-bas qu'on doit faire le dojo bar.
Ah oui, bah, il y a de quoi faire, ouais. Avec musique à fond, voilà, bonne ambiance, puis on pouvait tester les quelques jeux sur Ouya, en effet. Ouais.
Parce qu'il y avait une histoire sur ce stand, donc ça n'avait pas trop plu aux organisateurs de l'E-Cube qu'ils aient fait un petit stand dehors comme ça, juste devant le grand centre d'expo. Et donc ils avaient mis un camion pour entre le centre et le petit stand en extérieur pour le masquer. Et finalement, ils ont loué un espace encore plus proche pour être visible de tout le monde.
Ah bah, j'étais pas au courant du quiproquo, mais ouais, en effet, c'est vrai qu'ils étaient le bloc d'en face et on pouvait pas les rater une fois au salon, en tout cas, hein, c'est sûr. Mais oui, j'étais pas au courant de ce problème, en tout cas.
Bon, c'était le petit clin d'œil amusant de ce salon. Mortal, tu avais un sujet, toi ?
Ah, moi, j'ai un petit sujet, mais je sais pas si on aura le temps, du coup, donc je vais essayer de faire assez vite.
Vas-y, vas-y.
Donc, je vais vous parler d'un petit hack sur N64 qui nous vient du forum de Ben Heck. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Ben Heck, c'est un modeur qui s'est notamment illustré dans ses conversions de consoles de salon en consoles portables. En gros, de la NES à la N64, il a à peu près tout fait. Et donc, sur le forum, il y a un hacker qui s'est dit « Tiens, j'aimerais bien brancher ma N64 sur une console haute définition. » Et donc pour ce faire, comme je suis un petit malin, je vais utiliser un convertisseur analogique vers numérique, normal, et puis ensuite le brancher sur ma télé haute définition. Le souci, c'est que les convertisseurs analogiques vers numérique, ben ça, y a un certain temps de traitement, parce que convertir de l'analogique en numérique, ben ça prend du temps, donc il y a un retard d'affichage au niveau de l'image, et en plus, il y a le retard d'affichage, et si l'image analogique est dégueu, ben l'image numérique, elle va être dégueu, hein, le machin, il fait pas des miracles. Et le mec il s'est dit mais c'est complètement con parce qu'en réalité sur N64 il y a une petite particularité, c'est qu'il y a un coprocesseur qui s'appelle le RCP qui s'occupe du traitement numérique de l'image en fait. C'est-à-dire que lui, le RCP, il sort une image numérique et il l'envoie vers une autre puce qui est une puce composite qui ensuite la convertit en analogique pour la sortir par le câble traditionnel jaune, rouge, blanc. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les gens qui ont la chance de posséder une des premières N64 sorties en France, c'est facile, le numéro de série c'est NUS-RA, si vous voulez la reconnaître. Vous avez en plus de la puce composite une puce RGB, et cette puce RGB elle est sur la carte mère, elle marche parfaitement mais elle n'est pas branchée, donc il suffit de faire 2-3 soudures pour la brancher, de récupérer un câble RGB de Super NES, et hop, vous pouvez avoir une qualité d'image bien supérieure à la qualité composite en un rien de temps. Faut juste avoir un fer à souder et puis un petit peu de temps à perdre. Voilà, mais bon, le mec s'est dit. Et pas trop trembler des mains, parce qu'on a vite fait de bousiller des choses. Donc le mec s'est dit, bah c'est tout con, j'ai qu'à brancher directement un récepteur numérique sur le RCP, quoi, sur la puce qui sert à faire le rendu numérique d'image avant qu'elle soit envoyée au composite. Il y a juste un tout petit problème avec ça, c'est que le RCP est capable de sortir deux qualités d'image, en gros, du 240p, donc une image qui fait 240 lignes. Voilà, 240 lignes à 60 images par seconde, donc il rafraîchit 240 lignes toutes les 1/60 de seconde. Ou alors du 480i, donc une image qui fait 480 lignes de haut, mais qui est entrelacée, hein, i c'est pour interlaced, et donc on rafraîchit les 240 lignes paires ou les 240 lignes impaires tous les 1/60 de seconde. Le souci, c'est que une télé haute définition, pour fonctionner correctement, en gros, il faut lui envoyer du 480p, donc 480 vraies lignes tous les 1/60 de seconde. Coup de bol, il se trouve que les composants qui convertissent du 240p ou du 480i en 480p, ça existe déjà. Parce que c'est pas évident, si le mec avait dû le créer à zéro, il aurait bien rigolé à mon avis. C'est pas cher du tout. C'est-à-dire que c'est des composants qui sont très très bon marché, et en plus, ils ont un temps de traitement très très court. Parce qu'en gros, transformer une image 240p en 480p, on prend un pixel et puis on le transforme en 4 pixels. De la même manière, 480i, ben, quand on a les 240 lignes impaires qui arrivent depuis le RCP, il suffit de se souvenir des 240 lignes impaires de la frame précédente et on recompose une image complète. Donc le gars, ben, il a juste soudé ce composant-là sur le RCP, en gros, il a branché un câble HDMI derrière et oui, il sort directement sur sa télé. Alors, non seulement il a créé une sortie numérique pour N64, ce qui est quand même un bel écran, mais en plus, il a un temps de traitement qui est à peine supérieur, qui est même probablement équivalent à la puce composite ou la puce RGB d'origine. Et il a évidemment une qualité d'image, enfin une précision d'image et une fidélité des couleurs qui est juste complètement hors de portée de n'importe quel système analogique. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Le mec, 15 ans après la sortie de la machine, il se dit « Tiens, je vais créer une sortie numérique, une sortie HDMI pour une console alors que le HDMI à ce moment-là n'existait même pas. » Donc c'est quand même assez rigolo.
Alors, la N64, elle traite quelle résolution nativement ?
Alors même nativement, en analogique, nativement, elle sort du 480i, quel que soit le format d'origine. Si c'est du 240p ou du 480i, elle te sort du 480i.
D'accord.
Voilà. Sachant qu'il y a un retraitement parce que tu as 2-3 résolutions intermédiaires, mais le RCP, lui, peut sortir les deux modes. Il n'y a que ces deux modes-là qu'il connaît, donc le simple convertisseur de base permet de le sortir l'image. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un hack qui... Alors, pour l'instant, c'est quand même... c'est velu, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'accrocher. Il y a pas mal de soudure à faire, c'est un peu le bordel. Mais, globalement, ça coûte pas très cher. C'est un hack qui est assez simple à faire, dans la mesure où il y a finalement relativement peu de soudure. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit des kits de conversion pour N64 sortir sur le marché d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que le truc est quand même relativement à la portée des gens, quoi. C'est voilà, faut être un petit peu bricoleur, mais a priori ça doit pouvoir se faire.
Ouais,
ce qui est encore plus intéressant,
voilà,
c'est faire gaffe quand même de toute façon comme toujours. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ça fonctionnerait sur toutes les N64, c'est-à-dire qu'il y a plus seulement les gens qui ont la chance d'avoir une puce RGB qui pourrait profiter d'une image correcte, c'est vraiment n'importe quel modèle de N64 pourrait être modifié pour avoir une image numérique. Voilà. Donc, moi, je trouvais ça intéressant.
Bon, sinon, on installe la console virtuelle et ça marche. Hein.
Oui, voilà, mais c'est un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle.
Ah.
Puis le forum de Benek, c'est quand même des mecs qui ont l'habitude de faire du bricolage un petit peu de gorée, quoi. Donc, il faut leur laisser ça.
Bon, bientôt, ils nous feront un mode de pouvoir avoir une Wii en 1080p. Ce sera top, ça.
C'est vrai que ça ferait pas de mal. Ça ferait pas de mal, dans certains cas. Avec des textures de définition automatiquement.
Ah.
Ce serait le rêve.
Ouais. C'est un peu trop rêve, quand même.
On va marquer une première petite pause musicale. Je suis désolé, je galère un tout petit peu avec le logiciel de mixage. On va marquer une première petite pause musicale. Et en fait, comme on va parler de New Super Luigi U dans quelques minutes, on va se réécouter un tout petit morceau de la bande-son de Luigi's Mansion, qui est en fait le training mode de Luigi's Mansion. La première fois qu'on s'entraîne avec l'Ectoblast 3000, il y a un thème spécial pour ça. Et c'est ce qu'on va s'écouter tout de suite. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes.
Oh yeah.
Retour. Je suis désolé pour les gens qui s'attendaient à entendre Luigi's Mansion jusqu'au bout, mais je sais pas pourquoi le truc a complètement planté au milieu, ou alors il y avait une énorme pause où j'ai merdé mon fichier. où il s'est passé des trucs de fou.
Quel est ton système d'exploitation déjà, Martin ?
C'est pas une question de système d'exploitation, je pense que... Ah non, le fichier est tronqué, je confirme.
Ah, super.
Voilà, super, donc c'est génial. Je l'ai téléchargé il y a pas longtemps, et en fait, je me suis raté, donc voilà, désolé. Pour ceux qui s'attendaient à voir le training mode en entier, on va reprendre un tout petit peu plus tôt, heureusement que je surveillais la console, dis donc, sinon on était marrons. Donc on va reprendre avec le sujet New Super Luigi U. Alors, New Super Luigi U, pour les gens qui ne savent pas, c'est... comment dire, un DLC dématérialisé physique sur disque, hein, parce que ça résume bien la situation. Ah bah voilà, ça sort d'abord en dématérialisé sous forme de DLC de New Super Mario Bros. U, et ensuite ça sort en standalone boîte, mais un mois plus tard. C'est quand même relativement curieux.
Est-ce que la version dématérialisée, elle est indépendante du jeu Mario Bros. Wii?
Alors pas du tout. C'est vraiment un DLC. Il sort en deux versions, quoi. C'est vraiment, il y a un standalone sur disque physique.
D'accord.
Et il y a un DLC de New Super Mario Bros. U qui ne fonctionnera que si tu mets le CD de New Super Mario Bros. D'accord. U dans la machine. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un test? Est-ce que vous dites que les mecs ils se disent voilà, on va regarder les ventes en DLC et les ventes en physique, et à partir de ce moment-là, on prend une petite décision, on se dit tiens, est-ce qu'on fait plus de physique? Ou est-ce qu'on fait plus de dématérialisé? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le... Je botte en touche, je tape entre les deux, je propose deux prix différents, enfin, c'est vraiment une espèce de test marketing mais grandeur réelle.
Tu en connais les prix du DLC?
Alors le DLC est à 20 euros, donc à 19,90, ce qui est quand même super cher pour un DLC. Et en physique, il sortira à 39,90€, prix conseillé.
Bon,
un mois plus tard pour le double de prix en gros. Mais il est en standalone.
Bon, Medus dirait, c'est comme si on sortait un FIFA 2013 en DLC et à 35 euros et ensuite on le sort à 70 en version boîte, c'est-à-dire comme ils font chaque année. Sauf que là, il n'y a pas le DLC, on ne peut pas l'acheter moitié prix la version de l'année d'après.
Voilà, mais là, si tu veux, si t'as déjà craché au pot pour New Super Mario Bros. U, je pense qu'à peu près tous les possesseurs de Wii U ont New Super Mario Bros. U. Pas beaucoup trompé sur le sujet. Pas grand chose d'autre. Oui, tu as le droit de te moquer, JCC. Je te sens ricaneur, je sais pas pourquoi.
Je me cache un peu. Hein, pour...
Après, on va parler de la Xbox.
Okay, pas, après, on va t'allumer.
Bon, j'en profite avant.
Voilà, tu peux en profiter un peu avant. Est-ce que vous pensez que c'est un...
Pour dire qu'au dernier podcast, donc j'écoutais JCC en tant qu'auditeur, et je me disais, le pot allumé par tout le monde, et je le plaignais. Mais je pense que cette fois-ci, ça va moins se passer comme ça. Mais...
Je sais pas.
Je te plaignais, JCC.
Merci.
Bref, on peut revenir à New Super Luigi U. Vous en avez définitivement rien à foutre, on passe à la suite.
Un petit peu les deux. Allez, continue.
Bon, bah c'est bien, au moins ça a le mérite d'être honnête. Est-ce que vous pensez que c'est un test marketing grandeur réelle?
Ouais, je sais pas, parce que c'est un DLC déjà à 20 euros, c'est difficile. Bon, moi globalement, je le trouve inutile ce DLC et ce jeu boîte en fait, parce que finalement, ils essayent de lancer Luigi sur un truc. Où... Enfin voilà, c'est comme si on disait on en a marre des Super Mario, et puis ils disent bon, bah ok, on met Luigi. Et voilà, ça fait une super nouveauté, alors qu'en fait, c'est finalement que des niveaux, ce qu'ils font depuis assez longtemps sur Mario. Donc quelques niveaux en plus à quelques euros, sauf que là, c'est 20 d'un coup.
Non, c'est pas quelques niveaux en même temps, c'est 80 et quelques niveaux. Enfin,
ah, oui, il y a quand même des nouveaux niveaux par rapport...
Théoriquement, c'est des vrais nouveaux niveaux. En réalité, ce que tu te rends compte, c'est que c'est des niveaux, on va dire, qui ont été retravaillés pour être plus difficiles, plus courts, plus intense.
D'accord. Et le gameplay, il change du personnage ou...
Le gameplay du personnage... Non, mais attends, c'est Mario, mec. C'était 30 ans que ça n'a pas changé.
Je tente le coup.
Le Luigi se joue différemment que Mario.
Il a pas la même inertie, mais...
Voilà. Mais ça change tout. Hein. Ça change tout.
Voilà, mais... Tu cours, tu sautes. Tu cours, tu sautes. Quand même, après, toujours le principe.
Bon, après, voilà, on va avoir Super Peach U. Alors, Peach dans Super Mario Bros. 2, elle volait un peu. Bon, ben, je sais pas, moi ça me laisse perplexe.
Alors par contre, c'est vrai que la difficulté a quand même été augmentée par rapport à New Super Mario Bros. U, qui était déjà relativement raide sur les derniers niveaux. Là, apparemment, c'est raide dès le début, c'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif, c'est de faire des niveaux qui soient très courts, très nerveux, et qui aient le maximum de pêche possible, ce qui est quand même pas forcément inintéressant. Je veux dire, de se dire, on va faire une version très hardcore de New Super Mario Bros. U. Maintenant, est-ce que à 20€, ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même assez énorme, 20€.
Ça fait cher. Enfin,
ça fait cher. Juste pour un DLC, ça fait cher. 40€ pour un jeu boîte, ça fait pas cher, mais en même temps, c'est quand même une ressucée de niveau qu'on connaît déjà. J'ai l'impression que les mecs, ils savent pas trop où ils sont, sur quel pied danser, quoi.
Ouais, bah là, ils font clairement un test, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à 20€, sachant qu'en général, les plus gros DLC sur Xbox ou PS3, ça dépasse pas les 15€ en moyenne. Et là, ça fait 20€ pour un nouveau personnage et une difficulté plus accrue. Je trouve ça un peu abusé quand même. Enfin, c'est énorme.
Bon, mec, ton Eddie, tu t'arrêtes jamais avec Luigi, sinon tu glisses et crèves. Donc il faut foncer. Non, au niveau marketing, je trouve que c'est un peu foireux parce que d'un côté, moi j'ai pas envie d'acheter de DLC, surtout à 20€ sur Wii U à cause du système merdique de Nintendo qui fait que si tu changes de console, t'es un peu niqué. Plus ou moins. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'acheter 40€ un truc qui se vend 20€, quoi. Donc c'est à double tranchant leur système.
Puis après, il faut pas que ça soit la porte ouverte à une répétition de
New Super Peach U.
Voilà, New Super Toad U. Un versus de chaque jeu qui vont sortir.
Mais c'est vrai que le risque, c'est quand même ça. C'est qu'est-ce qui se passe si par hasard ça fait un gros carton et que t'as, j'exagère un peu, mais je sais pas, t'as 5 millions de ventes de...
Ah bah, si ouais, ça marche, ils vont continuer. Hein. Après, c'est aux joueurs de pas aider le système Nintendo à fonctionner. Enfin, ce système-là, en tout cas, à fonctionner.
Bon, d'un autre côté, c'est la première fois que Nintendo fait des DLC. Donc, du coup, est-ce que vous êtes tous les deux convaincus du fait que ça reste un test? C'est vrai qu'effectivement, sortir le même jeu en dématérialisé et en boîte à un mois d'écart, à des prix différents, ça ressemble effectivement à un test marketing grandeur nature. Je pense que ça paraît un peu évident quand on en discute un tout petit peu. Mais est-ce que vous pensez que c'est une habitude qui va se perpétuer? C'est-à-dire, de toute façon, Nintendo, c'était les seuls à pas faire de DLC. Aujourd'hui, ils en collent un peu partout. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que finalement c'est plus honnête ou moins honnête que les autres? Ou est-ce que ça reste toujours la même sauce?
Ouais, ils vont continuer. De toute façon, ils parlent déjà de modèle premium où on télécharge un jeu gratuit et après on télécharge du DLC payant au fur et à mesure. Donc clairement, ils se dirigent vers cette voie. Et de toute façon, tout le monde va se diriger vers cette voie parce que c'est...
Tu veux dire le modèle free-to-play un petit peu standard dans lequel ben, tu joues gratuitement et puis si tu veux avoir des trucs supplémentaires, il faut que tu mettes la main à la poche.
C'est ça. Donc ça aussi, ils vont faire un test avec un jeu merdique, mais...
C'était quel jeu pour Tomodachi
style,
Collection, non?
C'est le jeu de sous-marin, là.
Steel Dive, un truc comme ça?
Ouais. Ça nous plaît tellement que on se souvient même pas du nom. Donc je pense que tout le monde va se diriger là-dessus, parce que de toute façon, les jeux avec tarifs élevés, ça va sans doute mourir à petit feu avec les modes des jeux à 1€, 2€ sur téléphone, parfois 5 quand ils sont vraiment ambitieux. Les gens, finalement, ils s'habituent à ce genre de tarifs. Donc, sur console, on arrive encore à débourser un peu de sous, mais il va falloir vraiment un jeu de taré pour qu'on débourse 40, 50, 60€ ou 70 sur les autres consoles.
Ce que je trouve un petit peu triste, c'est que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le marché est en train de se segmenter en deux. C'est-à-dire que tu as le jeu indé téléchargeable pas cher, en gros, qui va faire moins de 5€, un petit peu plus quand c'est ambitieux, que ce soit sur console ou sur téléphone. Et puis t'as le AAA qui vaut quelques millions de dollars à produire et qui doit se vendre absolument tous les ans. Et j'ai l'impression que au milieu, il va plus rester grand monde. les productions, on va dire, moyen de gamme ou un tout petit peu trop ambitieuses pour du téléchargeable, mais qui n'ont pas les moyens du AAA, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de disparaître les unes après les autres, et qu'aujourd'hui, ben voilà, t'as plus que deux types de jeux et que ça va être de pire en pire.
Vous en parliez, c'est un peu le problème des jeux type casu. C'est que Nintendo, ils sont un paquet de fric avec ça, mais maintenant payer 30 euros pour un truc comme ça qui existe sur téléphone ou tablette ou c'est ils seront obligés de faire des modèles premium comme ça, free to play. C'est inévitable.
Voilà. Mais là, pour l'instant, New Super Luigi U, il n'est pas vraiment free-to-play. Hein.
Il n'est pas free-to-play, mais il est...
Il est cher pour du dématérialisé, et il n'est pas si cher que ça pour du stand-alone, mais d'un jeu que tu as déjà vu il y a 6 mois.
Bon, finalement, c'est aussi assez logique. Hein. Tu as déjà le jeu, t'es déjà le premier jeu, donc finalement, ils te font une réduc si tu l'as déjà, en fait. C'est un peu ça, quoi.
Mais voilà, en fait, alors, est-ce que tu penses que c'est un truc qui a été développé spécialement pour ça, ou est-ce que tu penses que c'est carrément... un mode de jeu qui a pas été fini et les mecs ils se sont dit bah tiens on va faire un petit test marketing avec.
Non, je pense qu'il le refait après moi.
Oh, mais... tu penses qu'ils sont honnêtes?
Bah tu sais qu'ils sont humanistes Nintendo.
Ils veulent que le bien de l'humanité.
Mais, voilà, mais déjà ça. Mario Bros Wii U, il paraissait pas déjà un copier-coller du précédent Mario Bros.
Oulala, ça, Mario Bros. Alors là ça va être du gros troll là. Attention.
Enfin ça critiquait dans ce sens là déjà pour la.
Bah New Super Mario Bros en même temps c'est pas... Enfin, l'objectif c'était de refaire du Mario Bros. Donc,
La version Wii c'était très bien faire un retour comme ça, mais l'impression que ça donnait pour la version Wii U c'était bah tiens, ils ont repris la dernière version New Mario Bros. Ils l'ont remis un peu en HD, ils ont fait quelques niveaux vite fait, et puis voilà. Puis apparemment, enfin, je crois que le jeu est très court par rapport au précédent. Enfin, je veux te
non, dire, c'est pas, non. Pas forcément. Alors, il y a Medus qui me dit que bientôt, sur le dojo, il y aura une analyse de New Super Luigi U. Voilà. Il faut faire l'annonce. Comme quoi, il l'a acheté, apparemment. Hein. Enfin, je suis à peu près sûr qu'il l'a acheté. Et il va le critiquer, de toute façon, sous forme écrite.
Et il a mis combien de temps pour le télécharger?
Le troll! Ah non, ça c'est méchant. Par contre, pour en revenir à ce que tu disais, entre New Super Mario Bros. Wii et New Super Mario Bros. U, il y a quand même une différence essentielle, c'est le super gland.
Moi j'allais dire le suffixe.
Personne rigole, j'ai fait encore un four. je suis tout à fait déçu.
C'est le mode où tu joues avec ta tablette et tu mets un plateau pour aider à sauter ou voilà. Je sais pas quoi.
Et puis ta tablette elle marche très bien avec ton gant. Enfin, on a pu vérifier, ça fonctionne très très bien.
Ah.
Faut appuyer un peu fort, mais bon, ça c'est une question.
Et la tablette sert qu'à ça, je crois, si on joue plusieurs.
Elle sert pas à grand chose. Enfin, tu peux jouer dessus si t'as pas de télé, quoi, ou si ta femme veut mettre autre chose à la télé, en gros.
Mais on peut pas jouer à deux avec la tablette.
Si tu peux jouer à deux avec la tablette, simplement le mec qui a la tablette, soit il joue normalement, donc il joue un vrai joueur, ou alors il dessine les petits plots pour aider ses petits camarades.
Parce que il me semblait
les
que
emmerder.
Il me semblait qu'on pouvait pas jouer en autonomie complète. Sur le gameplay.
Si. Enfin bon. Donc alors New Super Luigi U finalement. Oui.
Bon, honnêtement en fait c'est le jeu qui aurait dû être Mario, c'est que finalement parce que moi New Super Mario Bros. U, je me suis tellement emmerdé sur les trois premiers mondes que j'ai arrêté là. Donc j'ai même pas eu les niveaux difficiles. J'ai pas eu le courage d'atteindre ça. Donc finalement ils auraient dû sortir cette version un peu hardcore direct et peut-être ça aurait été bien. Moi j'ai pas réussi à ce jeu-là. Je me suis forcé et finalement. Finalement, j'ai arrêté parce que il est chiant. Donc, en même temps, ça me donne pas envie d'acheter Luigi parce que je me dis, je vais encore perdre 20 euros. Et d'un autre côté, bon, ça a l'air quand même un jeu pour les gamers, donc peut-être ça va me plaire. J'attends avec impatience la critique de Medus.
D'accord. Et pour l'instant, donc l'année de Luigi, alors Luigi's Mansion 2, je trouvais ça très très bon. Je sais que Sierra, ça t'a plutôt emmerdé.
Oui.
Donc New Super Luigi U au final est pas encore gagné. Donc finalement est-ce que le plombier vert il ferait mieux pas de prendre sa moustache et clic c'est clac et puis de se barrer quoi, parce que l'année de Luigi elle a un peu foiré au final.
Bah, toi, tu t'as bien aimé.
Ah non, moi, Luigi's Mansion 2, j'ai adoré, mais après, c'était quand même relativement court. Faut dire. Alors, pas court, c'est-à-dire que je l'ai fini en une semaine en y passant pas mal de temps. J'ai fini en une semaine, quoi.
Bon, c'est déjà bien. Non, non, moi, en fait, je trouve que l'ambiance est vachement bien, mais bon, en termes de gameplay, moi, ça m'a pas amusé, mais bon, c'est mon avis. Cela dit, je trouve le concept et l'ambiance particulièrement réussie. Donc non, Mario, Luigi revient, mais ou reste plutôt parce qu'il est là.
Moins cher.
Bon, 20 euros finalement pour un jeu complet. Bon, c'est juste que c'est.
Excusez-moi, le téléphone du bar. Oui.
Mamma mia.
Luigi, comment ça va? Attends, je vais traduire pour nos auditeurs qui ne te comprennent peut-être pas forcément. C'est la dèche chez Nintendo. Ils te payent même plus tes heures sup. Ton sucré, tes tickets restaurant. Et ton 13e mois. Oui, mais bon, à côté de ça, c'est l'année de Luigi, ça devrait aller mieux. Ah ouais, tu préférerais faire des jeux pour PS Vita. Ouais, quand même, c'est un peu trash, là. Ok, bah écoute, on te remercie pour ton témoignage et puis bah tu reviens quand tu veux. Je suis désolé pour l'interruption, donc c'est Luigi qui nous appelait en direct, a priori, de chez Nintendo. Hein. Je sais pas ce qui arrive, mais apparemment c'est quand même un petit peu la dèche. Hein. Pas l'air d'aller très bien, pas très enthousiaste.
J'imagine JCC assez consterné.
Non,
Il a
je
l'habitude.
Prends acte.
Il a l'habitude, c'est n'importe quoi, mais tout va bien. Bref, on va faire une seconde pause musicale, parce que je pense que là, on a un petit peu fait le tour du. Petit peu fait le tour du sujet et on va parler de la Xbox One dans très peu de temps. Donc JCC, tu vas
Ah.
passer sur le grill. Ça y est. Et
Ouais.
donc là, on va essayer de s'écouter une pause musicale complète hein, pour changer un petit peu, parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est un petit peu le grand n'importe quoi. Bah, c'est plus ou moins assumé, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc là, j'espère que vous pourrez tous l'entendre, sachant que c'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'il vient d'un jeu que j'ai personnellement adoré, qui s'appelle The Blob 2, qui était disponible en tout cas sur Wii, sur PS3 sur Xbox 360, je crois. Le 2, il était disponible sur les trois plateformes. Et qui a une bande-son qui est juste extraordinaire. Donc là, on va s'écouter un morceau qui est fait par le groupe qui s'appelle The Colorist Agenda et qui correspond au mode Empowered, mode puissant, dans The Blob 2. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes. Et nous voilà de retour.
Tour. Méduse, c'était pour toi.
C'était pour toi, celle-là, Méduse. Qui nous écoute, même s'il ne peut malheureusement pas nous rejoindre. Donc, pour cet open bar, on va parler du damage control, je pense qu'on peut le dire, de Microsoft concernant la Xbox One. Alors, je fais un tout petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, on est parti d'une situation où il fallait une connexion permanente, où il y avait des grosses limites sur les jeux d'occasion. En tout cas, on avait obligation d'aller revendre son jeu d'occasion à une espèce d'organisme tiers avec un numéro de série du jeu pour pouvoir le remettre en circulation d'une certaine manière. Il y avait des soucis pour les prêts de jeux parce qu'on savait pas trop comment ça allait fonctionner. Microsoft était resté très très évasif là-dessus. Il y avait énormément de restrictions régionales, 21 régions au total. D'habitude, t'as genre 3 régions maximum pour une console, 2 quand t'as un petit peu de chance, 1 quand tu t'appelles. Je sais pas, là, je crois que la PS3 est complètement dézonée, par exemple.
Ouais.
Et
oui,
donc 21 régions, c'est quand même un peu hardcore, quoi.
Ça, c'était drôle.
Ça, c'était pas mal. Donc voilà, et tout d'un coup, bah, Microsoft nous dit, ok, gros damage control, bah, plus de connexion permanente, juste une connexion à l'enregistrement, plus de limite sur l'occasion, plus de limite sur les prêts de jeu. Plus de restrictions régionales, ils ont carrément tout fait sauter. Il n'y a même plus les trois zones traditionnelles, Japon, Europe, États-Unis. C'est voilà, c'est free, il y a un free-to-play pour la partie import et autres, et ils ont réduit tout le reste. Par contre, si j'ai bien compris, alors JCC, tu vas pouvoir me confirmer, ils ont supprimé tout un tas d'options qui étaient quand même intéressantes. Pouvoir partager sa bibliothèque de jeux avec 10 autres personnes, je crois, dans l'option famille, entre guillemets.
Voilà, a priori, ça devrait sauter. On n'a pas forcément confirmation à 100%, je crois, mais ça, effectivement, ça devrait passer à la trappe.
Et de toute façon, c'était un prêt, il n'y avait qu'une seule personne qui joue en même temps.
Oui, probablement.
Donc, après, c'est pareil,
on n'avait pas,
pas
toutes les infos exactes encore du fonctionnement final, mais.
C'est vrai.
Mais oui, c'était, à mon avis. Avec une personne à la fois.
Donc c'est une fonction qui disparaît parce que de toute façon elle est remplacée par le fait qu'on prête le disque.
Voilà, en main propre.
Le truc qui était intéressant avec cette fonction, c'est que si t'avais un pote qui était aux États-Unis, tu pouvais lui partager ta bibliothèque de jeux.
Oh, voilà. Tu utilises la poste.
La poste c'est payant alors que là c'était gratuit.
Voilà, ouais, après
surtout, ça arrivait.
Maintenant il y a l'obligation de mettre le CD pour lancer le jeu si on a le CD physique d'origine. Donc, alors qu'on pouvait, au départ, c'est ce que prévoyait Microsoft, on achetait le CD, enfin le jeu en version boîte, on installait le contenu dans la console, et après on n'avait plus besoin du disque pour lancer le jeu. Maintenant on ferait retour en arrière, avec le système actuel de Xbox 360, faut au moins le disque pour pouvoir lancer le jeu.
D'accord, mais ça reviendrait un petit peu au... Enfin, je suis désolé de faire le parallèle comme ça, mais c'est vrai qu'installer les jeux, moi, ça me fait penser à une manie qu'on a sur PC. Ouais. Donc, effectivement, la Xbox One ressemblait, entre guillemets, beaucoup à Steam, sauf que t'avais la possibilité de récupérer, on va dire, du physique pour te simplifier le téléchargement, si j'ose dire.
C'est ça.
Et là, maintenant, c'est pas qu'il n'y a plus de téléchargement, c'est que finalement, on revient à un fonctionnement qui est, dire, presque standard, j'allais dire, d'une console. Plus du tout, enfin, c'est pas qu'il y a plus de dématérialisé, c'est qu'on est beaucoup moins dématérialisé que ce qu'on était dans le fonctionnement qui était prévu à l'origine.
Bah, on reprend le système actuel de la Xbox 360, les versions boîte avec le lancement, avec le disque inséré dans le lecteur, ou alors il faut acheter la version dématérialisée, mais que l'on ne pourrait pas revendre, alors qu'à l'origine il promettait qu'on pouvait. Revendre notre version des maths.
Alors là, revendre les versions des maths, va quand même falloir s'accrocher un petit peu parce que c'est. Enfin, je vois pas comment on évalue la valeur de quelque chose qui est. Enfin, la valeur d'usure, on va dire, de quelque chose qui est dématérialisé.
Bah, à mon avis, ça doit être un prix fixe de revente imposé par Microsoft. Je pense que c'était comme ça.
D'accord, donc là, ce genre de choses-là, c'est fini. Pour les prêts de jeu, il me semble que c'était assez compliqué parce qu'il fallait donner, si je me rappelle bien, dans la version d'origine, il fallait donner l'ID. Enfin, le login live personne à qui tu le prêtais, si je me rappelle bien, le jeu. Puis ensuite, il fallait quand il te le rendait, il fallait refaire une autre action, si je me rappelle bien. Enfin, c'était un truc assez tordu.
Il y avait plusieurs possibilités. Alors, soit effectivement, la personne se connecte avec ton compte sur sa console, du coup, il joue comme si c'était toi. Ou alors, il y avait le fonctionnement de prêt dans un groupe d'amis, en fait, que l'on définit.
Voilà, le truc de la famille dont on parlait
voilà.
Tout à l'heure.
Donc, on désigne, apparemment, c'était 10 personnes, hein, ce qui était prévu. On désigne 10 personnes et ces personnes-là auraient un droit d'accès au jeu. Après, les conditions exactes, c'était encore assez flou à ce moment-là. Mais c'était la tendance vers laquelle ils voulaient tourner.
Alors du coup, les restrictions régionales, ça c'était quand même le truc un petit peu what the fuck, parce que c'est quand même le pire truc, enfin je disais, 21 régions, non mais à la limite, tu vois, 3 régions, j'aurais rien dit, enfin, Europe, États-Unis, Japon, le truc un peu classique, ou même à la limite, les mecs qui faisaient Japon et reste du monde, parce que...
Moi j'ai pas vu cette info-là, ces 21 régions, en fait, la console sortait dans 21 régions, mais après, je sais pas si c'était...
Ouais, mais en fait, tu pouvais pas utiliser une console dans une région autre que celle où tu l'avais achetée. Je pense qu'elle était.
Ouais, après, je sais pas s'il est résumé région en pays ou par continent comme actuellement.
Oui, voilà.
Mais enfin.
De toute façon, moi, je pense que cet aspect de 21 régions, ça venait sans doute de tout ce qui est télé. où les droits, c'est assez compliqué en termes de région. En fait, TF1 achète les droits de telle série dans son propre pays, etc. Donc je pense qu'ils voulaient zoner la console pour ça. Mais bon, est-ce que...
Alors, voilà, c'est pas impossible, parce qu'effectivement, sur la télé, c'est très compliqué. Hein.
Actuellement, cette partie-là est très compliquée. Sur l'Xbox Live, l'Xbox 360, voilà, il y a des applications télé déjà, hein, comme TF1 justement, Canal Plus, etc., qui sont disponibles que pour le marketplace français. Donc, ils arrivent déjà à faire des du région.
Mais si tu lances la 360 actuellement depuis ta 360 française sur une dans un autre pays,
la Belgique,
si tu déclares au moment de l'achat comme étant d'un pays qui n'est pas le tien, est-ce que tu peux quand même est-ce que t'es interdit d'achat de...
Est-ce que t'as le droit de changer de pays?
Alors, tu peux te créer un compte avec un profil, je sais pas, américain, par exemple, et du coup, télécharger les applications américaines, ça marche. Après, le contenu vidéo peut être filtré par rapport à ton adresse IP,
ouais.
Comme sur les sites internet actuellement, ou si tu vas sur un site US de vidéo, il va bloquer parce qu'il voit que t'as une adresse IP française.
D'accord, donc le blocage il est plus fait par l'application en réalité que par le marketplace dans ces cas-là.
Donc Mortal ne pourrait avoir que des émissions de télé russes.
Ouais, voilà, parce que il faut savoir que mon IP personnel est géolocalisé en Russie pour des questions tout à fait pratiques. Non mais c'est bien parce que tu vois sur YouTube, moi quand j'ai de la pub en russe ou en néerlandais, donc du coup je la comprends pas. Enfin, le néerlandais, je le comprends un petit peu, mais la russe, je la comprends vraiment pas, et c'est vachement pratique.
Ça doit être un peu what the fuck, quand même.
Ouais, mais c'est enfin, la première fois que ça t'arrive, c'est drôle, mais voilà, quoi, c'est quand même relativement... Mais ça veut dire que les gens qui sont dans mon cas, c'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai un fournisseur d'accès qui est arrivé très très tard sur le marché français, qui fait qu'il a récupéré, en gros, une plage d'adresse IP qui était russe, à l'origine, donc il y avait beaucoup de services sur lesquels j'étais géolocalisé en Russie et je pouvais effectivement pas y accéder, ce qui est un peu, c'est un peu con quand même. Donc du coup, je me dis que c'est le genre de cas qui va quand même arriver relativement, enfin ça peut arriver quoi. J'aurais été vénère quand même de pas pouvoir me servir de ma Xbox quoi. Genre ouais. Des trucs un petit peu con. Est-ce que vous pensez que c'est la pression des joueurs qui est responsable de ce revirement de situation? Parce que ça a quand même gueulé sévère, que ce soit sur les forums indépendants, que ce soit sur des réseaux sociaux un petit peu importants, que ce soit sur Reddit. Enfin, je veux dire, Reddit, quand t'as 300 messages par heure qui disent c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, au bout d'un moment, ça fait quand même du bruit.
Oui, ça a forcément joué. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi Sony qui a eu une part importante là-dedans. Parce que si Sony avait pas fait le.
Du MS bashing.
Voilà, pendant sa conférence, à mon avis, Microsoft n'aurait pas bougé d'un poil.
Bon, après, cela dit, je sais pas si ça a été vraiment déterminant quelque part.
Ils ont quand même fait du bashing bien costaud, quoi.
Certes, mais je pense que ce qui finalement a vraiment décidé Microsoft à faire marche arrière, c'est qu'il y a eu quelques sondages qui sont sortis, entre autres par Amazon, où en gros, personne ne voulait acheter la Xbox One, quoi.
Et même pire, il y avait la chaîne de boutique GameStop. Ils ne voulaient pas commercialiser la console parce que les critères, la politique de Microsoft ne leur allait pas.
Et voilà, puis aux États-Unis, si t'as pas GameStop, t'es un peu dans la merde. Hein.
Voilà. Il y avait même aussi l'armée américaine qui se disait mais comment on va faire
pour les soldats qui jouent à Call of Duty.
Voilà, comment on va les entraîner s'ils peuvent pas jouer à la Xbox One, comment on va faire? Donc alors, je sais pas si ça va jouer pour l'US américaine, mais enfin l'US armée, mais.
Et toi, au niveau des forums, parce que sur Xboxygen, si je me rappelle bien, il y a un forum.
Oui, tout à fait.
Si
oui.
Je dis de la merde, t'as eu des réactions un peu violentes comme ça de gens de la communauté ou de gens qui étaient proches ou même peut-être de rédacteurs hein, tout simplement de Xboxygen ou,
bah,
ou ça a été relativement calme.
Non, la majorité quand même pestait contre les choix de Microsoft. Hein. Ça c'était assez clair et net. Hein. Et là, avec le retour en arrière, avec l'annonce de jeudi dernier, ça a beaucoup commenté aussi. Et limite, ils critiquaient également le retour en arrière.
Voilà. Personne n'est jamais content.
Voilà, donc c'est une chaîne sans fin.
Non, parce que ça, c'est parce qu'on est français, ça, monsieur.
Eh oui.
C'est important. C'est important, mais pourquoi...
Bon, c'est quand même
Cyril, excuse-moi, t'avais un truc à dire. C'est quand même une botte de lopette sans testicules, c'est ça?
Non, de t'avoir cédé.
D'avoir cédé. En même temps, même si t'as raison, si t'as raison tout seul, bah, t'as tort. Tu peux essayer de faire ce que tu veux.
En même temps, c'est ce que disait JCC tout à l'heure, c'est qu'on ne connaissait pas non plus tous les détails. Quelque part, bon, je sais que Mark Haddad, il aime pas du tout qu'on dise ça, mais Steam, c'est à peu près sur le même modèle, sauf que les tarifs sont super bas par rapport aux jeux sur console, mais pareil, on connaissait pas les tarifs, on connaissait pas les prix de revente, donc c'est un modèle économique qui peut fonctionner. S'ils étaient sûrs de leur coût, il fallait qu'ils continuent. Après, ça a gueulé parce que aussi on connaissait pas tout, peut-être aussi on avait raison, je sais pas.
Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que Microsoft vient de se retirer une ogive nucléaire du pied? Parce que là, globalement, ils se sont quand même, ils allaient vraiment se tirer une balle dans le pied, je pense, ne serait-ce qu'au niveau, parce qu'effectivement, les sondages sortis par Amazon, les prévisions de GameStop, enfin, ils avaient quand même un petit peu le couteau sous la gorge. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont vraiment retirés l'épine du pied? Le chapitre est tourné, ou qu'il faut encore s'attendre à de mauvaises surprises? Parce que finalement, on nous avait pas tout dit au départ. Peut-être que il y a des trucs un peu obvious sur lesquels ils sont revenus en arrière, et puis ben, ils nous gardent quand même quelques trucs derrière les fagots qui vont peut-être pas être jolis jolis.
Bah, l'avenir nous le dira, mais c'est clair que l'opinion publique s'est améliorée pour eux quand même avec cette annonce de retour en arrière. Après, est-ce que finalement c'est une bonne chose? C'est pas forcément certain.
Bon, sur notre forum à nous, il y a quand même quelques fans, en tout cas de la 360. Et bon, ils avaient pas l'air de pardonner Microsoft malgré le recul. Et ils avaient l'air d'être circonspects.
C'est un joli mot ça. Attends, je vais lâcher une caisse du coup pour fêter ça.
Vas-y. Ah. Et donc, c'était pas suffisant en tout cas. Il fallait encore qu'ils prouvent leur bonne foi. D'autant plus qu'on n'est pas certain que d'ici un an, après avoir vendu 3 millions de consoles,
ils reviennent pas à la charge avec le même système. Donc toi, tu fais partie des gens qui pensent qu'il va y quand même y avoir des mauvaises surprises et que si c'est pas tout de suite ou à la sortie, il risque d'y en avoir un tout petit peu plus tard.
Tu parles à qui ?
À toi.
Non, je pense pas qu'ils reviennent à la charge. Cela dit, encore une fois, je reste sur le fait que s'ils étaient sûrs de leur coup, il fallait qu'ils insistent. Je pense que si tu fais une console qui fait plus plaisir aux éditeurs que aux joueurs, quelque part, si les éditeurs aussi ils ont un peu de couilles, de testicules, pardon, il fallait qu'ils fassent des jeux exclusifs Xbox One, et au bout d'un moment, les joueurs ils auraient le choix entre une PS4 qui a pas de jeu et une Xbox One qui est super bridée, qui a des trucs de bâtard mais qui a tous les jeux. Si ça pouvait être un coup à jouer, hein, je sais pas.
C'est toujours une question d'équilibre après, c'est-à-dire que si tu fais une console qui est 100% dédiée, enfin qui c'est un curseur à choisir, on va dire, entre l'intérêt des joueurs et l'intérêt des éditeurs de jeux, il faut arriver à se placer un petit peu au bon endroit. Si tu fais une console qui ne va que dans l'intérêt du joueur, bah tu vas te mettre les éditeurs à dos, que dans l'intérêt des éditeurs, tu vas te mettre les joueurs à dos. Alors moi, il y a un credo familial, c'est quitte à se fâcher, vaut mieux se fâcher avec les moins nombreux. Hein, donc...
Puis il y a aussi les distributeurs hein, qui ont une part importante là-dedans.
Effectivement, en fait, c'est pas un curseur, c'est un triangle.
Donc, à mon avis, s'il n'y avait pas les distributeurs, l'Xbox One serait démat à 100%. À mon avis, ils ont fait des disques pour faire plaisir aux distributeurs au départ, pour qu'on puisse acheter les jeux dans les magasins. À mon avis, ce qu'ils auraient voulu, c'est tout dématérialiser. La console à 100%.
Ben ça paraît à peu près évident, mais du coup, est-ce que finalement Microsoft lâche du lest sur les supports physiques en se disant bon, ben, ils font chier tous ces connards, on va leur filer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire voilà, ils veulent pouvoir prêter leurs jeux, ils veulent pouvoir les revendre, machin. Ok, vous le faites, mais finalement, Microsoft se dit bon, d'ici 2-3 ans, de toute façon, l'essentiel des ventes, on va les faire en dématérialisé, et là, le dématérialisé, tout est verrouillé, comme ça l'est aujourd'hui. Ça le restera demain parce que ils nous ont fait chier, donc on va continuer à tout verrouiller. Je sais pas si vous voyez la démarche, mais Nintendo, c'est un peu ça. Aujourd'hui, les jeux, ils sortent en boîte et ils sortent en dématérialisé. Bon, au même prix, certes, mais à peu près en même temps. Je sais pas quelle est la proportion de jeux vendus en boîte et de jeux vendus en dématérialisé, mais de toute façon sur PC aujourd'hui les jeux boîte c'est une vaste blague. Il y a quand même des chances que les jeux sur console ça devienne une vaste blague d'ici 2, 3, 4 ans quoi. Est-ce que vous pensez que les mecs ils, finalement ils se sont dit bon on lâche du lest, de toute façon on les enculera plus tard.
Bah c'est ça, ouais. Et puis il y avait tellement un bad buzz contre eux, enfin à mon avis c'était obligé de faire un effort, surtout qu'en plus le prix de la console par rapport à la PS4 il y a 100€ d'écart. Ça, c'était pas innocent non plus pour les joueurs. Donc, à mon avis, ils ont lâché du lest.
Mais je pense que Microsoft, quelque part, il devait aussi penser à la PS4, mais sans doute, il voyait qu'il y avait une Steam Box qui fait parler d'elle, et qu'aura forcément ce modèle économique de Steam, qui est finalement à peu près le même que l'ex Xbox One. Et donc il voulait sûrement se placer par rapport à ça, parce que le jour où la Steam Box sort avec sans doute ce modèle là pour le moment tout le monde dit que Steam c'est trop de la balle, c'est trop bat, et donc quand ils sortent leur console, comment on fait, il y a un bad buzz ou pas? Moi je trouve ça assez étonnant.
Je pense pas qu'il y ait de bad buzz pour une raison simple. JCC, il se passe des trucs.
Non, pourquoi?
Parce que tu faisais du micro. Tout le monde s'est dit, on est en train de masturber son micro, faut pas en arriver là, mon garçon. C'est...
Ah, quand même, faut s'en plaisir de temps en temps.
Faut savoir se lâcher. Non, mais c'est vrai que en même temps, Steam, c'est assumé que c'est un modèle dématérialisé depuis le début. Et je vais te dire très franchement, s'ils font une Steambox qui t'appuie sur le bouton et 15 secondes plus tard, t'as Steam en big picture, ce sera pas très différent du fonctionnement d'une console. C'est juste une console complètement dématérialisée. Mais d'une certaine manière... C'est pas très 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 différent du fonctionnement d'une console standard. Donc, pour le coup,
c'est pour ça que je dis que Microsoft il devait sans doute se positionner aussi par rapport à cette hypothétique console et en faisant ça, alors que Steam lui aura le droit finalement sans bad buzz de faire ce modèle là quoi.
Après rien ne dit que Steam ça va marcher hein, s'ils sortent une Steambox.
Certes.
Après, le problème de Microsoft, c'est quand ils ont annoncé Xbox One fin mai, et la politique qu'ils envisageaient, c'était pas carré. Ça se contredisait entre les différents interlocuteurs. Du coup, ils ont réussi à brouiller tout le monde avec tout ça. Et du coup, à mon avis, ça a augmenté le buzz à propos de la connexion permanente, le dématérialisé, etc.
C'est vrai que c'était pas clair, il y a eu beaucoup de démentis, genre il faut une connexion permanente, mais non, en fait c'est une fois toutes les 24 heures. Enfin, je suis assez d'accord avec toi, il y a une espèce de je sais pas, de quiproquo, de problème simplement de communication. J'ai l'impression que c'était, je sais pas clair pour eux, ou que à chaque fois ils essayaient d'expliquer un truc, et puis finalement on disait mais quoi, what? Et puis les mecs ils étaient obligés de se rattraper. Mais d'une certaine manière, est-ce que... Alors là, je te pose la question très sérieusement, JCC, parce que je sais que tu es dans les petits papiers Microsoft.
Pas du tout. on n'est pas aidé par eux, on l'a bien compris à l'E3 d'ailleurs.
C'est genre, on en a rien à foutre en fait.
Est-ce que
maintenant que la Xbox One et finalement les plateformes PC ont des architectures qui sont similaires, c'est-à-dire c'est du x86, c'est des cartes graphiques standards, c'est des choses comme ça. Et d'ailleurs, on a vu à l'E3 que les bornes de démonstration Xbox One, en réalité, c'est PC. C'est des PC dans des gros cartons.
Bah, c'est les devkits, hein, tout simplement.
Les devkits sont des devkits PC. Ouais. Est-ce que finalement, ils pourraient pas arriver à... Parce que l'objectif, à mon avis, c'est quand même d'aller casser la gueule à Steam, à un moment ou à un autre, parce que c'est la plateforme ultra dominante sur PC. Est-ce que les mecs se disent pas, tiens, je vais lancer une application Xbox One pour Windows 8, par exemple? Et puis en réalité, tu pourras retrouver avec ton login live habituel tous les jeux que tu avais sur ta Xbox One, les retrouver sur ton PC. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est crédible ou c'est pas du tout l'état d'esprit actuel?
Avec le cloud, à mon avis, c'est possible. Ils ont déjà plus ou moins commencé avec le Windows Store, avec le Windows 8. On peut retrouver certains jeux Xbox Live Arcade et sur Windows 8.
Ça reste assez minoritaire pour l'instant, si je dis pas de bêtises.
Oui, bien sûr. Ouais. Et après, ils ont aussi le but d'harmoniser le store Xbox Live Arcade et enfin Xbox Live en général et le Windows Store pour qu'ils deviennent plus qu'un. Donc, à mon avis, après, c'est tout à fait envisageable de retrouver un jeu Xbox One via le cloud sur un PC Windows 8.
Bon, après, ça pose quand même un sacré problème, c'est qu'actuellement, un jeu Xbox One 360, c'est un jeu Xbox One, quoi. Mais après, tu vas avoir les paramètres de qualité, de texture, etc. Tu seras plus du tout sur un modèle optimisé pour un.
Bah après, c'est le principe du cloud et du jeu en streaming. Hein.
Après, oui, c'est vrai qu'ils ont, quand même insisté dessus, même si on n'en a pas vu beaucoup. C'est effectivement, je vois ce que tu veux dire, JCC, c'est-à-dire de se dire, se baser sur le cloud gaming pour harmoniser en gros la performance du PC par rapport à la puissance d'une Xbox One, quoi. Que le différentiel se fasse par la partie cloud de Microsoft.
Par exemple, oui.
C'est vrai que dans ces cas-là, c'est vrai que c'est une hypothèse qui est carrément envisageable, du coup. Parce que là, ça mettrait quand même un gros pied aux fesses de Steam, qui, pour l'instant, effectivement, est tout seul, ultra dominant. Je vois pas vraiment d'autres choses qui pourraient se profiler à l'horizon pour leur faire de l'ombre, à part, effectivement, l'arrivée de la Xbox One sur Windows 8 et Windows Phone, et ainsi de suite.
Ouais, après, bon, Steam, ils ont l'avantage de proposer des bas prix au niveau des jeux. Ce que n'a pas tant, enfin, l'habitude de faire chez Microsoft. Bon, après, je sais pas s'ils vont pouvoir faire de l'ombre à Steam. À mon avis, c'est encore bien trop tôt, mais peut-être dans 4-5 ans, pourquoi pas.
Donc pour la Xbox 2, non, ils vont galérer pour le prochain nom, hein. Moi je m'intéresse.
Ouais, je vois toi Xbox 5, comme ça ils pourront se. comme la PS.
Moi je pense qu'il faudra qu'ils fassent Xbox U, comme ça au moins ça. Enfin bref. on va pas s'étaler là-dessus. Bon, messieurs, je vous remercie, c'était vraiment super sérieux. Hein. Vache, ça fait plusieurs émissions qu'on est super sérieux, faut qu'on arrête, hein, sinon faut qu'on dise plein de conneries maintenant.
Bah, c'est parce qu'on boit qu'une seule gorgée de bière au début et puis après on.
Ouais, c'est vrai, l'objectif c'était. Mais ça, c'est à cause de Méduse, quoi. À chaque fois qu'il est pas là, on est un petit peu moins torché, quoi.
Ouais.
Faudrait être honnête. Alors, messieurs, comme c'est la tradition, je vais vous demander le mot de la fin, donc JCC, le mot de la fin.
Sapristi.
Ok, bel hommage, merci beaucoup. Si rare le mot de la fin, puisque t'avais envie de te lâcher tout à l'heure.
Ta gueule, Emmett est triste.
Ok, moi je vais reprendre un petit peu Shy Guy et dire. Voilà, je vais reprendre Shy Guy et dire scatophage, parce que je pense que c'est important. Attends, allez, voilà, maintenant ta gueule est mes Tetris, donc je vais mettre Tetris. Alors, comme je suis pas du tout à la bourre, je mets Tetris comme ça, voilà. On se retrouve, nous, normalement, dans deux semaines, et en fonction de ce que les oracles auront décidé, ce sera peut-être la dernière émission de la saison. Ou alors, ce sera juste une émission normale, et la dernière, ce sera celle d'après. Je sais pas encore comment on va se débrouiller. Ou encore celle d'après, je sais pas trop. En tout cas, si tout va bien, on se retrouve dans deux semaines. Salut.
Salut.